Écho d'économie.
Des ONG de droits de l'homme réclament la restitution d'un diamant tonique clair de 800 carats à son propriétaire. Il s'agit d'un colis saisi depuis 2005 par la justice belge et remis aux autorités congolaises pour son origine douteuse. L'actualité, c'est aussi le lancement en Ituri de l'opération de paiement de l'impôt personnel minimum. Ce nouvel impôt institué par l'Assemblée provinciale concerne tous les majeurs. Et dans le Bandundu, nous parlons de la destruction du marché ville basse dans la ville de Kikwit. Les opérateurs économiques se disent surpris alors que les autorités déclarent appliquer un jugement prononcé en octobre 2014. Bonsoir et bienvenue à tous. 5 ONG des droits de l'homme s'en remettent au chef de l'État pour obtenir la restitution d'un diamant tonique clair de 800 carats à son propriétaire, Théodore Mbia Kalala. Selon Action Congolaise pour le respect des droits humains, Ligue des électeurs, Observatoire des droits humains, œuvre sociale pour le développement et Tauge Noire, ce diamant avait été saisi depuis 2005 par la justice belge. Celle-ci l'avait ensuite remis aux autorités congolaises pour son origine, qu'elle jugeait douteuse. Maître André Mouila, président de Tauge Noire, relate les faits à Jeff Ngoy.
Le diamant est au niveau de la Banque Centrale. Actuellement, on apprend que le diamant serait déjà au niveau de la place de la République. Le chef de l'État, Joseph Kabila, avait été saisi par les chefs de confession religieuse, par les autorités politico-administratives et traditionnelles pour ce diamant. Il s'était engagé devant tout le monde à s'impliquer pour que ce diamant soit restitué à M. Mbia Kalala. Depuis lors, on n'a pas de suite. C'est ainsi que nous pensons qu'il est grand temps que le chef d'État puisse honorer son engagement de s'impliquer pour que ce diamant soit restitué à l'infortuné. Théodore Mbia avait saisi en son temps le parquet général de la République, la justice belge. D'ailleurs, c'est suite à sa plainte que ce diamant avait été restitué au gouvernement congolais, parce que d'origine douteuse. Mais le parquet général qui a été saisi du dossier, jusque-là, ne fait rien. Alors le monsieur est abandonné à lui-même.
Diamant d'origine douteuse, donc c'était sorti d'une manière frauduleuse.
Effectivement, d'une manière frauduleuse. Vous imaginez un diamant blanc, ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un tel diamant. Alors, une fois exporté en Belgique, le diamant a été la curiosité de la douane belge qui a voulu savoir son origine.
Le diamant, nous en parlons dans le Zoom de ce soir. Nadine Foulansimba.
Le diamant est un minerai composé de carbone. C'est l'un des matériaux naturels les plus durs. On les classe parmi les pierres précieuses. La RDC est l'un des principaux producteurs de diamants au monde. Elle produit 15% du diamant de joaillerie et 85% du diamant industriel, c'est-à-dire les diamants utilisés dans l'industrie. Le Kasaï occidental et le Kasaï oriental sont les deux grandes provinces productives du diamant au Congo. Ces deux provinces contribuent à 90% en quantité des exportations officielles. Outre ces deux provinces, le diamant est aussi exploité dans les provinces du Bandundu, du Bas-Congo, de l'Équateur et en province orientale. L'essentiel de cette production est artisanale et les volumes moyens d'exportation du diamant de production artisanale oscillent autour de 1500 carats par mois pour une valeur moyenne de 25 millions de dollars américains. En 2010, la RDC a produit plus de 11 millions de carats, dont 8 millions de manières artisanales et 3 millions de manières industrielles. La RDC, qui détient encore 200 millions de carats de diamants en réserve, exporte ses minerais à l'état brut pour lui ajouter une plus-value et améliorer sa contribution aux recettes nationales, estimée aujourd'hui à 50% aux recettes du pays. Depuis 2010, le ministère des Mines a instauré la désoxydation obligatoire des diamants avant toute exportation. Les CEEC étaient chargés d'assurer cette opération.
Puisque nous parlons de diamant qui est un minerai, sachez qu'une délégation du ministère congolais des mines séjourne à Mbujimayi depuis le vendredi dernier. Sa mission est double: déterminer les zones d'exploitation artisanale des substances minérales et installer les coopératives minières. Chris Nkonte pour les détails.
Selon le chef de la délégation, Jean-Saint Toké, qui est conseiller au ministère congolais des mines, le gouvernement central tient à réduire au maximum l'exploitation privée des substances minérales et préserver la traçabilité de la production. Il est question de savoir ce qui est exactement produit, précise M. Jean-Saint, et d'ajouter que certaines informations font état des grosses pierres trouvées sorties de la province sans que cela ne soit signalé, ce qui met à mal la mise à jour des statistiques. Afin de remettre de l'ordre dans ce secteur, l'on va commencer par borner les zones d'exploitation artisanale officielles, et sur ces zones vont être installées les coopératives minières qui devront regrouper les exploitants. Il n'y aura donc plus de personnes qui exploitent en solo, car il est difficile de recenser la production de ce genre d'exploitants. Tout le monde devrait travailler dans le cadre de ces coopératives. Ainsi, toute la production pourra pourra être maîtrisé. Les statistiques actualisées, le conseil au ministère des Mines rassure que les propriétaires des pierres ne seront pas dépossédés de leurs trouvailles. C'est juste un contrôle pour permettre à l'État d'avoir les statistiques fiables et de s'assurer de la traçabilité de la production. C'est visiblement un exercice de redynamisation du service des SAESCAM, qui a dans ses termes de référence la traçabilité des substances minérales issues de l'exploitation artisanale. Mbouje Maï, Chris Mukonde, Radio Capi.
En Ituri, dans la province orientale, nous parlons du lancement ce week-end à Bounia de l'opération de paiement de l'impôt personnel minimum, IPM en sigle. Il s'agit d'un nouvel impôt institué par l'Assemblée provinciale de la province orientale qui concerne toutes les personnes majeures. L'institution de cet impôt suscite déjà des réactions. Certains habitants saluent l'avènement car ces recettes pourront aider la province à exécuter son projet de développement. D'autres, par contre, estiment qu'il n'y a aucune garantie quant à ce qui concerne la bonne gestion de cet argent qui sera perçu auprès des assujettis. Jean-Claude Lucky.
Plus de 300 personnes, parmi lesquelles différentes autorités coutumières ainsi que le chef des quartiers, ont assisté à cette cérémonie. C'est le ministre provincial des Finances qui a présenté le kit complet qui accompagne cet impôt. Il s'agit des timbres qui seront collés sur des cartes et gardés dans des étuis pendant une période de 6 ans. Alphonse Oukech déclare que l'émission de cet impôt tire sa base juridique, notamment dans l'ordonnance loi et même dans les 10 provinciales.
Conformément aux dispositions de l'article 3.4 de l'ordonnance loi 13001 du 23 février 2013, l'impôt personnel minimum figure parmi les impôts provinciaux et locaux.
Comment rassurer les contribuables quant à la gestion saine de cet impôt? C'est la question que se pose cet habitant de l'Ituri qui a préféré garder l'anonymat. Il estime en plus que cela pourrait être un motif pour les forces de l'ordre de tracasser davantage la population.
Quels seront les mécanismes de contrôle? On est assez tracassé déjà. Est-ce qu'on n'est pas en train d'armer la police, l'armée contre la population? Pourquoi ne pas attendre l'avènement des nouvelles entités provinciales dont l'Ituri fait partie afin qu'on puisse voir qu'est-ce qui est prioritaire pour l'Ituri?
Sont exemptés notamment des invalides, des élèves, des étudiants ou encore des déplacés de guerre. Bounia, Jean-Claude Lokidile, Radio Okapi.
De son côté, la DGDA Katanga annonce que des efforts sont fournis depuis quelques semaines pour lutter contre la contrebande le long de la frontière qui sépare la RDC à la Zambie. Elle affirme avoir intercepté plusieurs véhicules et saisi des marchandises qui sont entreposées au poste douanier de Whisky, c'est à une dizaine de kilomètres de la frontière de Kasumbalesa. D'après les responsables de la DGDA, les propriétaires de ces véhicules et autres marchandises voulaient se soustraire au paiement des droits de douane. Ils précisent cependant que pour lutter efficacement contre la fraude douanière, cela nécessite des grands moyens. Paul Amunanga nous en dit plus.
Une cinquantaine de véhicules qui ont tenté d'échapper à la douane ont été interceptés. Dans l'entrepôt de la DGDA au poste de Whisky, il y a aussi plusieurs centaines de sacs de ciment, des sacs de sucre, des sacs de sel, de l'huile végétale, des ballots de friperie, des tissus. Ces marchandises ont été interceptées le long de la frontière de Kasumbalesa, de Mokambo ainsi que de Sakanya. Selon les sous-directeurs de la DGDA au site de Whisky, ces prises sont les résultats d'énormes efforts fournis par son service en collaboration avec d'autres services qui organisent des patrouilles mixte dans les Bilanga, c'est-à-dire la brousse par où passent les marchandises frauduleusement. Et parmi les services qui organisent ces patrouilles à côté de la DGDA, il y a l'Office congolais de contrôle, la police des frontières, les services d'hygiène aux frontières, la quarantaine animale, la police nationale congolaise, l'auditorat militaire, les renseignements militaires. Signalons cependant que les responsables de la DGDA Katanga reconnaissent que la lutte contre la fraude douanière exige de grands moyens. Et ils ont rappelé que l'une des solutions envisagées par les autorités du pays, c'est l'érection d'un mur le long de cette frontière poreuse de la RDC. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Écho d'économie. Direction le Bandundu pour parler du déguerpissement ce week-end aux petites heures de la matinée des occupants du marché Villebasse et de la destruction des ouvrages érigés dans la concession qui abritait ce marché. C'est en exécution du jugement prononcé en octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Kikwit dans l'affaire opposant la famille Takizala à la ville de Kikwit et la commune de Lukolela pour occupation anarchique de sa parcelle, comme nous l'explique Fabien Kambindi.
Les Les habitants de Kikwiti se sont réveillés le week-end dernier avec cette triste nouvelle faisant état des déguerpissements et de la destruction de tous les étalages et autres kiosques du marché Villebasse. Une opération conduite par la police et les agents du parquet qui exécutaient par là la décision du tribunal de grande instance de Kikwiti. Les occupants et des détenteurs de boutiques qui ont débarqué le matin en plaire se sont retrouvés devant un spectacle désolant sur les lieux. Aucun étalage et autres constructions n'étaient épargnées dans cet espace gardé depuis la nuit par des policiers. Quelques occupants affirment avoir récupéré leurs biens. D'autres par contre parlent de la perte ou du vol des tôles de leurs hangars. La plupart d'entre eux critiquent cette décision et estiment que dans cette affaire, ils ont été abandonnés par l'État. Rappelons que ce tribunal, outre qu'il a ordonné le déguerpissement des occupants, a également condamné la commune de Lukolela, propriétaire de ces marchés, au paiement de 5 millions de francs congolais à la partie Takizala à titre de réparation et préjudice subi.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition supervisée par Léonard Moulamba, mise en onde par Jean-Claude Siala et suivie par vous. Merci.